mystères de l'Église avec Monseigneur Marc Haillet.
Il est important de noter, puisque nous sommes partis de Pierre et du Collège des Apôtres, et donc du successeur de Pierre, dont nous avons dit la primauté, en lien avec le collège épiscopal, qui est chargé donc avec et sous l'autorité de Pierre, donc de son, du pape, de conduire l'Église, d'exercer son autorité sur le peuple du tout entier, il est important de rappeler que chaque évêque est pour sa part principe et fondement de l'unité dans son Église particulière. L'Église particulière, comme nous savons, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, selon une dénomination sans doute administrative, mais un diocèse. L'Église universelle est composée d'une multiplicité de diocèses, c'est-à-dire d'églises particulières, qui ont à leur tête un successeur d'apôtre, qui sans doute ne peut exercer son autorité et son pouvoir, pourrait-on dire, qu'en communion avec l'ensemble du collège épiscopal et donc avec Pierre et sous son autorité, mais qui, pour sa part, exerce son autorité pastorale pleine et entière sur la portion du peuple de Dieu qui lui était confiée, cette fois-ci assistée par les prêtres et les diacres. Comme membre du collège épiscopal, et selon l'expression de saint Paul, il a la sollicitude de toutes les églises, et il ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans les autres diocèses, pas seulement de sa circonscription administrative qu'on appelle une province, ou de son pays, à travers la conférence épiscopale, qui rassemble au moins deux fois par an les évêques d'une nation, mais aussi d'autres diocèses avec lesquels il peut établir des partenariats. Par exemple, notre diocèse de Bayonne, l'Escarieux-le-Rond, est en jumelage avec un diocèse d'Afrique, exactement du Togo, le diocèse de Kara, des liens de fraternels et des liens de coopération missionnaire. Car l'évêque, dans son église particulière, par son insertion dans le collège épiscopal, qui est évidemment universel, eh bien, doit avoir la sollicitude de toutes les églises. Mais, assister des prêtres et des diacres dans son diocèse, eh bien, il exerce pleinement son autorité sur la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Il est principe et fondement de l'unité dans son église particulière. Et il contribue ainsi, eh bien, au bien de tout le corps mystique, qui est le corps des églises. On a déjà eu l'occasion de dire que l'église universelle existe dans et par les églises particulières. Il n'y a pas de distinction entre les deux. L'église de Bayonne-lès-Carré-le-Rond, dans la mesure où elle est unie au siège de Pierre, qui est le pontife romain, l'évêque de Rome, eh bien, est l'expression, l'incarnation, pourrait-on dire, ici et maintenant, de l'Église universelle. Ce qu'il est important maintenant, ce sur quoi il est important d'insister, c'est sur les fameux tria munera, c'est-à-dire les trois charges à travers lesquelles s'exerce le ministère épiscopal, donc d'abord les évêques comme successeurs des apôtres, et le ministère de leurs coopérateurs, qui sont les prêtres. Les évêques et les prêtres ont d'abord comme premier munus, c'est en latin, c'est comme première charge, le munus docendi, comme on dit, c'est-à-dire la charge d'enseigner. La première charge qui est confiée aux apôtres, et on le voit bien lorsque Jésus monte au ciel et qu'il donne ce fameux mandat missionnaire que l'on retrouve au chapitre 28 de saint Matthieu, est d'annoncer l'évangile à tous les hommes. De toutes les nations, faites des disciples, ou comme on le traduit autrement parfois, enseignez toutes les nations. Et de même, en saint Marc, au chapitre 16, Jésus dit à ses apôtres, allez proclamer l'évangile à toute la création. Donc c'est vraiment la première charge que le Seigneur Jésus a confié à ses apôtres, et donc qui est la première charge qui appartient au ministère des évêques, hein, que d'enseigner, que d'annoncer l'Évangile. Pas seulement annoncer l'Évangile, mais évidemment annoncer l'Évangile dans toute la tradition bimillénaire de l'Église, c'est-à-dire en conformité avec tout l'enseignement de l'Église, dont le magistère du pontife romain et du collège épiscopal réuni autour de lui de manière solennelle, par exemple à travers un concile écuménique, est garant. Pour maintenir l'Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres, le Christ a voulu conférer à son Église une participation à sa propre infaillibilité, lui qui est la vérité. N'a-t-il pas dit en effet « Je suis le chemin, la vérité et la vie » hein ? Et il est intéressant de noter que c'est Lumen Gentium, donc au numéro 12, qui indique cela. Par le sens surnaturel de la foi, que nous appelons donc le sensus fidei, le peuple de Dieu tout entier, depuis le premier des évêques jusqu'au dernier des fidèles, s'attache indéfectiblement à la foi qui a été transmise depuis 2000 ans, mais sous la conduite du magistère vivant de l'Église. Disons que ce sens surnaturel de la foi est infusé dans le cœur des fidèles par l'Esprit Saint, et il fait que la communauté de l'Église tout entière, évêques, prêtres, diacres, consacrés, fidèles laïcs, eh bien, adhère indéfectiblement à la foi sous la conduite du magistère vivant de l'Église. La mission du magistère est donc liée au caractère définitif de l'alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son peuple. Et le magistère et des évêques est chargé donc de protéger des déviations, des défaillances, lui garantir la possibilité objective de professer la foi authentique sans erreur. Hein, comme on le dit dans la première prière eucharistique, eh bien, nous prions pour tous ceux qui sont chargés d'enseigner la foi dans l'Église, donc les évêques en communion avec le pape, et de garder la foi fidèlement, celle qui était reçue des apôtres. Ce qui est sûr, c'est que cette infaillibilité dans l'ordre de la foi a été transmise par le Christ à son Église. D'abord, celui qui jouit de cette infaillibilité à titre personnel, c'est le pontife romain. C'est le chef du collège des évêques, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, dans la mesure, bien sûr, où il entend, intentionnellement donc, proclamer de manière solennelle le donné de la foi, en particulier les dogmes. Mais participe à cette infaillibilité du pontife romain le concile écuménique lui-même, lorsque le collège des évêques est réuni solennellement autour du pape, sous son autorité, et donc tout ce que le concile écuménique va professer, dans l'ordre de la foi et des mœurs, eh bien, jouit de la même infaillibilité. On pourra dire d'ailleurs que cette infaillibilité est celle de l'Église, pas seulement lorsque on est dans les conditions d'une proclamation solennelle d'un donné de la foi, comme un dogme, mais aussi lorsque le concile écuménique, eh bien, redit de manière ordinaire la foi de l'Église depuis 2000 ans. L'unanimité des évêques dans la proclamation de la foi, même si elle n'est pas donnée de titre, à titre solennel, eh bien, est sujet de l'infaillibilité de l'Église.